Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmès, Thérèse. Vous ne les connaissez pas ? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien, et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits. Ce sont les héroïnes du quotidien.
Bonjour Aïcha.
Bonjour.
À ce titre, c'est quoi une héroïne pour toi ?
Franchement, je ne sais pas, mais j'allais justement te poser la question de savoir pourquoi avoir pensé à moi et pourquoi m'avoir choisi pour faire mon portrait. Et puis, je n'ai même pas envie de te poser la question parce que tu arrives aussi à un moment où je suis en train de faire le bilan de 30 ans de vie à Nantes, dont plus de 20 ans d'engagement en tant que femme. Et c'est un engagement citoyen qui est ancré en moi, qui peut parfois me porter préjudice ou en difficulté, parce que cet engagement citoyen, je l'ai autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais tu arrives à un point nommé, mais je me suis dit, mais pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Et voilà.
Est-ce que tu as souvenir, quand tu étais gamine, d'avoir des figures comme ça, d'héroïnes, de femmes que tu as admirées ?
Non, c'est même délicat de te répondre là-dessus, parce que je viens d'une famille nombreuse, de parents pas instruits, qui étaient illettrés. Ils avaient une culture énorme, une richesse énorme, mais on n'avait pas de figure importante, en tout cas de femmes engagées. Moi, mes plus belles figures, c'est ma plus belle figure, c'est ma mère, quoi. C'est ma mère, et quand je vois qu'elle a fait 10 gamins et qu'elle les a élevés, qu'elle dans des conditions parfois difficiles, dans la pauvreté, mais on avait toujours à manger sur la table, parce que mes parents, en tout cas mon père, était paysan, donc on avait un grand jardin familial et on cultivait de tout, et c'est ce qui faisait que on avait la nourriture. Donc moi, ma plus grande figure, c'est ma mère.
Est-ce qu'on racontait des histoires dans ta famille ?
Énormément.
Des contes, des
oui, bien sûr. Tous les soirs, tous les jours. Des fois, c'était plein de bonheur, des fois, c'était pour nous faire un peu peur. Parce qu'il y avait des choses autour de la mort, autour des superstitions, des esprits, de la religion aussi. Mais on était souvent en admiration devant nos parents qui nous racontaient comme ça des anecdotes d'Algérie. Et ça nous faisait plaisir. Donc c'est vrai que même si parfois c'était conté, il y avait dans certaines situations, dans certaines histoires, une part de vérité, une part de leur vécu, mais qui nous racontaient sous forme d'histoire, parce que leur histoire était tellement, tellement lourde aussi à porter, et l'immigration, l'arrivée en France, et puis en plus dans un... Franchement, je ne sais même pas pourquoi mon père est allé se nicher dans un petit patelin de la campagne, en Moselle, dans l'est de la France. Incroyable, mais je le remercie.
Toi, tu es née là-bas ou tu es en Algérie ?
Non, je suis née là-bas en Lorraine. Et franchement, je suis fière d'être née dans l'est de la France, parce que ça m'a apporté une richesse énorme. D'être née à la campagne, c'était que du bonheur, en tout cas pour mon enfance. Pas forcément... on va dire à 200% ou à 100% dans toute l'évolution familiale, mais parce qu'on a rencontré des difficultés. Mais je suis née sur un grand terrain d'aventure.
héroïne du quotidien.
À chaque fois que j'ai interviewé quelqu'un, toutes les femmes, je leur ai demandé qu'est-ce que c'est une héroïne. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, c'est de savoir se débrouiller tout seul et de tracer sa route. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça ?
Savoir se débrouiller toute seule, oui, mais on ne se débrouille jamais toute seule. On ne se débrouille jamais toute seule. Ça, c'est, pour moi en tout cas, c'est une non-vérité.
Ouais.
Parce qu'il y a toujours quelqu'un. Peu importe ce qu'on fait. Je t'ai dit, oui, j'ai appris les métiers du bâtiment et tout ça. Mais s'il y a un truc que je ne sais pas faire, par exemple l'électricité, ben, je vais appeler un ami ou je vais faire appel à un électricien. Mais j'ai de la chance d'avoir un ami électricien. Donc, il n'y a pas de souci. Il sait qu'il y a des choses que je ne vais pas toucher. Maintenant, si c'est pour changer un interrupteur ou une prise, ça, je n'ai pas besoin de lui. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais.
Donc, on n'est pas tout seul, en réalité.
On n'est pas tout seul. Après, c'est peut-être notre expérience de vie, toutes les personnes qu'on a rencontrées qui ont forgé notre personnalité, qui ont forgé notre caractère. Et ça, on ne peut jamais dire qu'on l'a réussi seul. Parce qu'il y a toujours eu quelqu'un, tout au long de notre vie, qui nous a construit. Que ce soit négatif ou positif. Elles nous ont toutes apporté quelque chose qui nous ont construites et qui nous ont forgées. Donc, oui, je suis en capacité de tracer ma route toute seule, mais j'ai même envie de te dire, j'ai pas envie de la tracer toute seule. On a besoin de ces gens autour de nous. Moi, j'ai mes enfants, aujourd'hui je suis grand-mère, enfin aujourd'hui ça fait 10 ans que je suis grand-mère, mais je suis fière de ça. Mais en plus de mes enfants, qui eux aujourd'hui sont ma propre famille, j'ai un entourage amical important. Ils sont pas nombreux, mais ils sont présents. Et après, j'ai mon réseau professionnel, j'ai mon réseau associatif, des connaissances, et tout ça, c'est des connexions. Je dis pas que je les côtoie tous les jours, mais ce sont des connexions. Et c'est ce qui ont fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui.
À ton avis, qu'est-ce qui fait que dans cette idée d'héroïne du quotidien, j'ai pensé à toi. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu es qui pourrait justifier, on pourrait dire, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qui ferait que...
De ce que les gens peuvent me renvoyer, c'est le fait d'être disponible.
Disponible.
Le fait d'être solidaire. Le fait de dire ce que je pense sans détournement, même si je le dis, parfois on a l'impression que je parle de façon agressive, mais en fait ce qu'on appelle l'agressivité, c'est de la passion. Je suis direct, mais tellement direct que c'est à double tranchant.
D'accord.
Donc c'est soit on accepte ce que je dis et puis ça roule et on accepte qui je suis, soit on n'accepte pas ce que je dis, et puis du coup, on va être dans l'interprétation, dans je sais pas quoi, mais en tout cas, on va déformer ma parole, et souvent je dis aux gens, prenez ma parole brute, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'entre deux lignes, il n'y a rien du tout. Je viens de Lorraine, et en Lorraine, on parle comme ça. Donc si vous êtes content, c'est bien, vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Là, je le dis de cette manière-là, mais je suis pas comme ça avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, et j'ai toujours trouvé ça bizarre, qui avaient une appréhension de venir vers moi ou de m'approcher parce que j'ai une posture ou une stature qui fait que... Attention.
D'où ça vient, ça ? Est-ce que ton aspect militant,
Non, c'est mon expérience de vie. Moi, ça fait 30 ans que je suis à Nantes, mais j'oublie pas pourquoi je suis à Nantes. J'ai été victime de violences conjugales il y a 30 ans. J'ai élevé seule mes enfants. J'ai consacré beaucoup de temps à mon engagement citoyen. J'ai loupé un peu de la vie de mes enfants. Et je pense que j'ai loupé la plus grande période de leur vie, c'est l'adolescence. Mais j'étais tellement à fond dans mon travail et qu'il fallait que je m'en sorte. Et qu'il fallait aussi nourrir mes enfants, payer les factures et tout. Et puis après, mes origines. C'est surtout mes origines. J'ai vu ma mère se battre, j'ai vu ma mère vivre des moments douloureux, difficiles, même avec mon père. Jamais elle a voulu quitter mon père, jamais elle a voulu, au contraire, je reste là, c'est mon mari, même si j'ai 10 enfants, même si je souffre, même si machin, il faut. Et pourtant, on l'a ramené devant la justice, on a mis mon père en désintox parce que mon père était alcoolique, enfin bref, on a fait des démarches, mais... Et ma mère était tellement croyante, elle a dit, écoute, ça fait 20 ans qu'il n'a pas été en Algérie, ben, je vais le ramener en Algérie, puis quand il reviendra d'Algérie, il ne boira plus une goutte d'alcool.
Ça a marché ?
Ben ouais. Parce qu'il a dû faire des choses, après, qui étaient plutôt dans la pratique religieuse, qui lui permettaient de lui redonner du sens à sa vie. Et voilà, mon père a été un peu perdu à un moment donné de sa vie, et ma mère s'est toujours occupée de lui, et nous, on lui en a jamais voulu parce que c'était un sacré bonhomme, quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment l'expérience de vie qui fait que certaines femmes, en tout cas, évoluent de cette manière-là, mais je laisse très peu de gens m'atteindre, et c'est vrai qu'il y a une énorme carapace autour de moi. Mais par contre, si je ressens bien les gens, ça le fait. Après, il y a des gens avec qui je vais m'engueuler à chaque fois que je les vois, mais qui deviennent mes super potes après, quoi.
Héroïne du quotidien, un autre regard sur le quartier.
Donc tu es arrivée il y a 30 ans ici.
Ouais.
Et alors, c'est quoi ton engagement militant, citoyenne
Moi, ça a toujours été la lutte contre les inégalités et la lutte contre les discriminations. Franchement, il y a des choses que je ne supporte pas dans notre pays. Je ne sais pas si c'est parce que je suis née en Lorraine, dans une ville militaire, tu vois, où on a été aussi accompagné par les militaires, mais en même temps par la communauté chrétienne qui était très implantée, protestante ou catholique, peu importe, mais très ancrée dans la vie sociale, tu sais, toujours
donc,
dans l'entraide.
Les gens étaient en relation les uns avec les autres.
Il n'y avait pas de... Tu vois, je suis née dans une ville, enfin dans une région qui est plutôt raciste. L'Est de la France, c'est quand même dur. Je ne dis pas qu'on n'a pas vécu le racisme, mais nos amis polonais l'ont vécu de la même manière que nous. Mmh. Nos amis italiens, ils l'ont vécu de la même manière que nous. Et bizarrement, on est arrivés tous les trois en même temps, dans cette même petite ville de Lorraine. Mmh. Et il fallait s'entraider. Mais on l'a fait aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui, tu vois, le fait de catégoriser la population. Moi, je n'ai pas été éduquée là-dedans, mais de dire que les Italiens, les Polonais, les Algériens et la communauté française ou franco-française, voilà, c'est entraider. Ben non, là, on parlait d'humain et on s'entraidait. On savait qu'on était différents, mais on ne se le mettait pas à la gueule tout le temps, quoi.
Quand toi, ça... c'est là-dessus que tu t'es engagée, sur le fait de quoi ? Changer le monde ?
Pas changer le monde. Conscientiser des gens et de leur dire que peu importe ce qu'on peut leur renvoyer, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur origine, peu importe leur religion, ils sont acteurs de leur propre vie. Et que pour dépasser certaines choses, eh ben, moi, il y a des trucs que je n'accepte pas, tels que le discours victimaire. De dire c'est parce que je suis arabe que je n'y arrive pas, je suis noire, parce que c'est une réalité. Il y a des discriminations, il y a du racisme. C'est une réalité. Mais c'est comment toi, tu te sens français pour pouvoir dépasser ces barrières-là.
Comment tu as fait? Alors, c'est quoi tu as monté une asso?
Non, moi, j'ai d'abord travaillé pour une grosse association qui luttait contre les discriminations, qui est quand même le CID, le Centre Interculturel de Documentation. Et donc le centre de ressources a été transmis à Tissé Métis, et j'ai fait 20 ans Tissé Métis. Et pour moi, c'était un engagement très très fort. Moi, j'y croyais dur comme fer, et faire conscientiser autant la population, mais aussi le politique, pour moi, c'était hyper important. Tu vois, aujourd'hui, il y a Benjamin Stora qui vient de donner un rapport sur l'Algérie. Il est temps. Ça va être controversé. Ça va être controversé.
Mais il y a quelque chose.
Parce que la France, avec certains héritiers de l'immigration, son plus gros problème, c'est les héritiers de l'immigration algérienne. Et je mets tout le monde, pas que les ceux qui sont vraiment algériens. Il y a les harkis, il y a les pieds noirs. Et il y a tous les descendants de Français nés en Algérie. Nous sommes tous issus de l'immigration algérienne. Et apparemment, on est 7 millions. 7 millions. Et l'histoire des Algériens n'est pas la même que l'histoire des Marocains ou des Tunisiens ou peu importe les autres. Et nous, ce qu'on demande depuis des années, c'est vraiment que la France reconnaisse son histoire, quoi. Et qu'elle arrête de nous endormir, qu'elle arrête de... Parce que nos parents nous ont raconté des choses.
Thank you.
héroïnes du quotidien, des femmes pour apporter un éclairage différent sur le quartier.
C'est quoi cette aventure des 15 000 masques ?
Eh ben, mars 2020, ouais. Je chope le Covid, je tombe bien malade. Pas hospitalisée, mais bien malade et enfermée chez moi pendant 30 jours.
Dès mars.
Et je suis allée voter pour les municipales. Et 3 jours après, je suis tombée malade. Voilà. Et Farida et moi, comme Farida s'occupait beaucoup de moi et qu'elle me ramenait mes repas, mes fruits et tout pour les vitamines, tout ça, on s'appelait régulièrement aussi. Et puis, putain, fait chier, on est quand même responsable d'un atelier de couture. Et Farida me dit, bah ouais, c'est vrai. Et puis, elle en avait déjà fait pour nous. Tu vois, pour les salariés, pour les bénévoles, pour les membres de la famille, on en avait déjà fait. Donc, et puis, un jour, elle m'appelle, et puis on en discute, et puis je raccroche, et puis j'appelle Johanna Roland, en fait. Je dis, Johanna, il faut qu'on fasse des masques. Hein. Mais c'était compliqué, parce qu'on n'avait pas encore la validation de l'État, il y avait les normes AFNOR, il y avait...
Ah oui, donc quel masque faire, comment,
ah ouais,
est-ce
c'était...
que ça sert à quelque chose de faire des masques qu'on n'aurait pas le droit
voilà,
de porter.
Donc pendant 10 jours, ça a été des discussions, machin et tout, et puis jusqu'au jour où le Premier ministre, il prend la parole, et il dit c'est bon les masques AFNOR, bla machin et tout, puis du coup, le directeur général des services et Johanna, il me rappelle en me disant c'est bon, on y va, machin et tout. Et nous, on était quasiment prêts à lâcher l'affaire, parce que c'était compliqué, mais il y a eu cette annonce. Et puis, d'emblée, on a lancé une opération, 15 000 masques. Mais pendant les 10 jours de discussion, on avait déjà négocié, enfin, surtout Farida, elle avait déjà négocié avec Myrtille, elle avait déjà négocié avec des grands fournisseurs aussi qu'elle connaît, puisqu'elle est dans le domaine textile. Et du coup, on a pu avoir très facilement, alors que à ce moment-là, c'était la pénurie partout, on a pu avoir des kilomètres d'élastique, des kilomètres de tissu et tout. Et du coup, on avait négocié avec la ville de Nantes de fabriquer 15 000 masques pour les gens précaires, des quartiers populaires. Donc on a été soutenus sur cette initiative-là. Et après, à côté de ça, on a eu des commandes et tout. Donc on a dû fabriquer environ 40 000 masques.
En
quelques mois. Mais les 15 000 masques, on les a fabriqués en 3 semaines. Parce que le défi, c'était de les fabriquer en 4 semaines. mais on l'a fait en 3 semaines.
15 000 masques en 3 semaines. Mais alors, c'est pas juste de les faire. Il fallait après que ça arrive jusqu'au jour qu'il y en avait besoin. Comment vous avez fait ?
Eh bien, grâce à Facebook, grâce à mon engagement, grâce à mon réseau,
les gens sont venus ?
250 bénévoles couturiers et couturières. Et 26 associations et entreprises. Et dont une entreprise qui faisait plus de livraison de bouffe parce que c'était en plein confinement, machin et tout, qui m'a appelé, Guillaume, et qui me dit « Ben, on n'a pas de travail, on se tient à votre disposition. »
Je n'imagine même pas ce que ça fait, 15 000 masques. C'est
énorme. C'est énorme, mais toutes les associations partenaires, parce qu'elles accueillent que des publics précaires, gardaient les masques qu'elles fabriquaient et les distribuaient à son propre public.
D'accord.
Quand il y en avait trop, elle me les ramenait à moi et on redispatchait. Et puis moi, j'en donnais aussi. Il y a eu un lien très fort avec Nantes Entraide qui nous a permis aussi de distribuer des masques, mais qui nous a aussi, la ville de Nantes nous a aussi acheté des masques pour pouvoir les distribuer.
Aux gens, y compris dans la rue et tout ça.
Exactement. Et on a fabriqué aussi, je crois, 1000 masques pour les crèches associatives. Donc... Non, ça a été une action particulière pour des femmes en fil parce que ça a demandé une grosse organisation. Mais pendant un mois, j'ai été à l'association avec l'accord de la ville de Nantes puisqu'on était en lien avec Nantes Entraide. Et du coup, on a fait une pierre deux coups. Puis j'étais aussi agent volontaire sur cette action-là. Donc du coup, ce qui me permettait de travailler librement et pas juste d'être la présidente des femmes en file et à côté de ça, agent municipal. On s'est dit, tout est ensemble, donc Aïcha, c'est bon, mais en lien avec, avec la ville de Nantes. Et ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. On en a distribué aux gens du voyage parce que les gens du voyage n'avaient pas de, d'endroit où... où on récupérait, et je connais le curé de, des gens du voyage, Christophe, donc je l'ai appelé, il est venu en chercher. J'en ai distribué pour les personnes âgées de la communauté juive, parce que pour moi c'est important. Et j'en ai distribué, enfin j'ai donné des kits, je crois que j'ai donné plus de 2000 masques à la mosquée de Malakoff pour les fabriquer et les distribuer.
À Bellevue, les gens sont venus directement au, au local, hein, dans votre
les
local,
gens venaient à Bellevue, on était quand même, il y avait Regards, mais il y avait Stila Paga, il y avait Arlène, il y avait Rapi et Arlène. Donc rien que sur Bellevue, on était 5. Sans compter la goutte d'eau de Saint-Herblain. Parce que pour moi, c'est Bellevue aussi. Donc ça faisait 6. Donc...
toutes ces assos avaient des masques.
Avaient des masques, et voilà. Et là-dessus, il n'y avait pas de problème. Après, il y a eu une action exceptionnelle. C'est un jour, où, c'est le début du mois, c'est les, là où les gens recevaient le RSA. Nous, on sait quand est-ce qu'il arrive. Donc moi, j'ai appelé mon directeur. Je suis allée à... il y a une queue incroyable sur la place centrale de Bellevue. Je vais aller distribuer. C'est que les bénéficiaires du RSA.
Ah, qui viennent chercher leur pognon leur argent, ouais. À la poste.
Ouais. Et ça. Du coup, je suis sortie des femmes en file avec un carton, avec Daniel, les bénévoles. Et on a distribué les masques. On a dit combien vous êtes dans la famille. Quand ils nous disaient 4, on donnait 4. S'ils étaient que 2, ils étaient que 2. S'ils étaient que 1, que 1. Quand ils étaient que 1 personne âgée, j'en donnais 2 à chaque fois. Comme ça, ils pouvaient échanger et tout. Donc, on a fait aussi ce genre d'opération. Je l'ai fait aussi à la Bottière. Et sur les Dervalières Breil, ça s'est fait avec les collègues des équipes de quartier et la distribution alimentaire. On l'a fait aussi à Bellevue. On a aussi donné aux acteurs qui faisaient la distribution alimentaire le avec le MAB, le comptoir des Alouettes, donc tout ça. Donc ça a généré une belle solidarité. Et moi, je me relevais à peine de mon Covid. Franchement, j'étais fatiguée. Mais pour moi, c'était nécessaire. Parce que quand j'ai vu comment j'étais, dans quel état j'étais chez moi, et en plus toute seule, j'ai dit, ah non. J'ai dit, les pauvres, ils vont pas pouvoir s'acheter de masque, ils vont pas machin. J'ai dit, comment on va faire, tout ça. Donc, franchement, on a eu un soutien incroyable de la ville de Nantes et une oreille attentive du maire. Donc, c'est pour ça, quand on bosse avec l'institution ou avec le politique, peu importe la situation, mais je pense qu'en situation de crise, il y a moyen de discuter, de faire ensemble. Mais l'essentiel, c'est de faire ensemble. C'est pas de faire tout seul, de son côté, machin et tout. Tu vois, ça revient aussi sur le fait de dire, si une femme te dit « je me suis faite toute seule » ou un homme te dit « je me suis faite tout seul », dis-lui que c'est impossible. Impossible. Soit il y a du monde autour. Il y a du monde autour. Donc quand on est dans une grosse action collective comme ça, ben ouais, on n'est pas tout seul. C'est gratifiant.
At your front door out into sound and sun, and people say hello to you, and you say hello to everyone. The of you, and you're not afraid of anything.
rapport au mec, j'ai une approche particulière. Et de toute façon, dans mon engagement, j'ai plus accompagné d'hommes, enfin de mecs, que de femmes, de filles. Et en fait, il y a une relation qui s'installe entre nous. Et au départ, c'est compliqué. C'est dans la provocation, c'est... On me teste parce que je suis aussi maghrébine. Et du coup, quand c'est... je me retrouve face à de jeunes maghrébins, ça teste.
Femme.
Voilà, ça teste. Puis au bout d'un moment, les gars, ils viennent me demander un truc ou un autre truc. Et puis, quand je leur pose des questions pour pouvoir les accompagner, ils me disent, bah, il faut que tu te contentes de ce que je te dise. Je dis, bah, non, désolé, je ne peux pas t'accompagner juste avec ça. Moi, j'ai besoin de plus d'informations et tout. Ils me disent, bah,
ça, c'est dans le cadre de ton boulot ?
Dans le cadre de mon engagement, ça. Je l'ai fait même dans le cadre... quand j'étais au CID et que j'ai travaillé auprès des jeunes, ça a commencé comme ça.
C'est ça. Ils venaient au CID pour chercher de la...
Oui, mais j'ai travaillé à Bellevue, à la Maison des Habitants. Là, j'étais responsable d'un service d'accompagnement à la vie associative, mais en même temps, il y a des jeunes qui avaient des besoins pour des CV, pour chercher du boulot. Mais des fois, c'était juste pour discuter.
Ouais.
Donc...
Le fait que tu sois une femme, est-ce que tu dirais que c'était une difficulté supplémentaire ou au contraire, tu avais quelque chose comme un rôle de maman un peu ou de...
Non.
De sage ?
Pas vraiment de maman. J'étais plutôt une grande sœur. C'était plutôt une grande sœur. Encore aujourd'hui, hein, ils ont 35 ans. Mm. Ouais, 35 ans. Il m'appelle Sœurette, il m'appelle Madré, il m'appelle... voilà. Et je suis toujours en contact avec eux. Et il m'appelle pour me dire, bah tiens, je vais me marier, je suis papa, ou voilà. Mais au départ, pour certains, c'était dur. Et puis, comme je te l'ai dit, je suis cash. Donc moi, si je dois dire ta gueule à quelqu'un, je dis ta gueule à quelqu'un. Et puis si un jeune me manque de respect, je ne vois pas pourquoi lui, il me manquerait de respect et que je ne vais pas lui dire « calme-toi, gars », parce que là, franchement, c'est même pas la peine. Donc il y a des fois où j'ai eu peur, il y a des fois où bah, j'ai tenu tête. Mais quand les gars, ils ont vu que je tenais tête, après, ils ont dit « bah allez, c'est bon, elle, c'est, on peut lui faire confiance et tout ». Mais au départ, c'était « contente-toi ». Je te donne 2% de moi. Donc contente-toi de ça. Parce que c'est déjà beaucoup.
Hmm.
2%. Hmm. Alors quand ils m'ont donné leur 100%, j'avais gagné le jackpot. Hein. Hmm. Franchement, j'avais gagné le jackpot. Hein. Hmm. Parce que j'ai même des collègues qui me disaient « Mais comment tu fais pour les faire venir à 8h du matin ?» Je dis « Ben, c'est simple. Tu leur dis café, croissant, machin. Et puis, on va être tranquille. » Oui, 8h du matin. En plus, il y avait certains jeunes, je savais qu'ils fumaient, donc je savais qu'à 8h du matin, ils ne seraient pas enfumés. Mmh. Et voilà. Et puis, quand il y en avait un qui arrivait une demi-heure, trois quarts d'heure en retard, et qui ne s'excusait pas, mais qui estimait que j'allais encore l'accueillir, j'ai dit, bah non, gars, reviens demain. Allez hop, même heure, demain. T'arrives encore un quart d'heure en retard, bah c'est pas grave, ce sera reprogrammé.
Mmh. Mmh.
Mais il a fallu que je tienne tête de cette manière-là. Aujourd'hui, ces jeunes dont je te parle, j'ai une super relation avec eux. J'ai vraiment une belle relation avec eux. Et ça...
ça tient en fait que tu étais cash, ferme, que tu leur laissais pas faire n'importe quoi.
Non, c'est important de dire certaines choses. Mmh. Moi, je prends pas de gants. Ouais. Je prends pas de gants. S'il y a un gars qui veut trouver du travail, machin et tout, c'est pas moi qui vais lui trouver le travail. Moi, je vais ouvrir des portes. Mais si lui, il est destiné à un métier, moi, le métier, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas lui faire sa lettre de motivation. Et ce n'est pas à moi de lui faire sa lettre de motivation. Puis, quelque part, j'en ai rien à foutre. Il me dit, ouais, mais je ne sais pas écrire, je fais plein de fautes et tout. Je dis, pose les choses. Et après, là, oui, je t'aide à corriger, à t'expliquer, à structurer, machin et tout. Mais en aucun cas, je fais pour toi.
30 ans de travail comme ça.
Ouais.
Militant, donc ça veut dire pas payé ou bien
non,
payé quand même.
Non, régulièrement, tout au long de ma vie, ça a été souvent un boulot salarié. Mmh. Mais j'étais pas la salariée qui faisait 9h midi, 13h30, 18h. Mmh. Moi, des fois, j'étais à minuit encore à Bellevue. Mmh. À 8h du matin, j'étais déjà au bureau. Mmh. Donc il n'y avait pas. Je comptais pas mes heures, je comptais pas mon temps, je comptais, franchement, je comptais rien de tout ça. Et je te dis, en plus, je travaillais pour une association bien engagée contre les luttes contre les discriminations. Donc pour moi, je faisais pas de dissociation entre mon job et mon engagement citoyen, parce que même personnellement, bien évidemment que je luttais contre toute forme d'injustice, et en particulier les discriminations, parce que moi-même je l'ai vécu. Donc il y avait des choses que je laissais pas passer.
Tu m'as dit tout à l'heure, quand on a commencé cet entretien, tu m'as dit, bah, finalement tu tombes à point nommé, parce que je suis en train justement de faire comme un bilan de mon parcours. Alors, bah, évidemment, la question n'est pas du tout facile, mais si tu devais dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est, après toutes ces années, là, le bilan de ton parcours, ce dont tu es le plus fier, et puis aussi peut-être, parce qu'on est dans la réalité, quels sont les écueils ou les difficultés auxquelles tu t'es confronté?
Les difficultés, enfin, je vais dire 30 ans de vie ici à Nantes. Sincèrement, le mot que je vais mettre, c'est vraiment la citoyenneté.
Citoyenneté.
C'est ce qui a fait voilà, ce que je suis aujourd'hui. Et au travers de mon engagement citoyen, c'est toutes les belles rencontres que j'ai faites. Franchement, j'ai rencontré des gens, dont mon mentor qui était le directeur du CID, mais j'ai rencontré des gens magnifiques et qui m'ont écouté, qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui m'ont, voilà, avec qui on a pu dialoguer, on a fait des soirées conviviales, et ça, je suis fière de tout ça. Et le fait d'être ce que je suis aujourd'hui à Nantes, oui, j'en suis très très fière. Les difficultés rencontrées, c'est les blocages. Dans l'engagement associatif, il y a 25 ans, je ne pensais pas vivre ce genre de difficultés dans le monde associatif, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on a basculé dans un truc, je sais pas si on est rentré dans le jeu du système, dans le jeu de la concurrence, dans le jeu de... Alors qu'on a tous un intérêt commun qui est le public pour lequel on œuvre, et il y a des moments où moi, ça, je l'ai pas compris, et j'ai pas compris pourquoi entre femmes, surtout entre femmes, on pouvait se mettre autant en concurrence et se blesser parfois les unes les autres. Et j'ai rompu des relations comme ça, hein, parce que j'ai estimé pour moi que c'était quelque part des trahisons, parce que pour moi c'était mes amis dans l'engagement. C'était pas simplement des connaissances, c'était des amis. Et du coup, oui, je suis fière. Oui, je suis fière.
Tu vois, l'héroïne.
Voilà, mon franc-parler, il est apprécié ou il n'est pas apprécié. Mais quand je vois qu'il y a des gamins et des gamines, parce que j'ai quand même 52 ans, eux, ils ont 35 ans, mais je les ai connus quand ils avaient 15 ans, quoi. Quand je vois qu'aujourd'hui, je suis en contact avec eux, qu'on mange parfois ensemble, qu'ils sont fiers de m'annoncer qu'ils vont devenir papa, qui sont fiers de m'annoncer qu'ils travaillent, qu'ils ont acheté une maison. Pour moi, c'est la meilleure des reconnaissances. Mais comme je te l'ai dit au début de l'entretien, on ne se fait jamais toute seule. Jamais. C'est tout ton parcours qui t'a construit.
Thank you.
héroïne du quotidien.
Est-ce que tu penses que le fait d'être une femme a permis ou au contraire ajouté des difficultés dans ce parcours militant et citoyen? Est-ce que
non, être une femme pour moi ça a été un atout, en sachant que, comme je te l'ai dit quand je t'ai accueillie, j'ai quand même un côté masculin qui est bien
c'est
présent.
C'est quoi le côté masculin?
Chacun d'entre nous a un côté féminin, masculin.
Ouais.
Ben, dans mon engagement, c'est plutôt mon côté masculin qui prend le dessus.
D'accord.
La féminine, elle va se calmer. Après, la féminine, elle se réveille quand elle doit faire appel à l'intelligence et à la structuration et au pragmatisme, des choses comme ça.
Ça, c'est le côté féminin.
Ça, c'est le côté féminin pour moi. Mais quand il faut aller à la négociation, au combat, parce que des fois c'est un combat, c'est vraiment un combat qu'on mène, et ben vaut mieux que j'ai mon côté masculin et cette manière de parler qui fait que mais j'ai les deux, et après dans mon cadre privé c'est autre chose. Là il y a un véritable équilibre entre les deux qui fait que je suis aussi féminine que masculine, et ça cohabite bien et tout. Mais en extérieur, ce que j'appelle ma carapace, en fait, c'est mon côté masculin qui ressort et qui fait que, peu importe qui j'ai devant moi, si je sais que ça le fait pas, ça le fait pas. Si j'ai tort, je reconnais mes torts. Des fois, il me faut un peu de temps pour analyser et accepter. Déjà, accepter et analyser ce qu'on m'a dit. Et après, je reviens vers la personne en disant, voilà, par rapport à ce qui s'est passé hier ou par rapport à la discussion hier, moi, je veux bien revenir sur tel point, je veux bien être conciliante là-dessus, je veux bien machin. Mais sur d'autres points, là, je reste ferme et définitive.
T'avais des conseils à donner à des jeunes hommes ou femmes qui vont être eux qui vont construire le monde de demain. Qu'est-ce que tu leur dirais?
Les
qualités qui sont importantes pour toi ou les ressources qui sont importantes?
C'est d'être soi-même, de ne pas se mentir. Et de ne pas faire plaisir à l'autre, même si c'est ses parents, même si ce sont des membres de sa famille, le choix lui appartient. Il a son propre libre arbitre. Et que si lui, il a choisi un chemin et que c'est là qu'il doit aller et pas ailleurs, qu'il n'écoute personne, qu'il n'écoute lui-même, à part les conseils avisés, qu'il emmènera vers cet objectif-là. Mais c'est d'être soi-même. Et de ne pas se mentir. Parce que si
c'est
on fait plaisir.
C'est un chemin d'individuation, on pourrait dire, de vérité et puis aussi de liberté, j'ai l'impression. Parce que ça veut dire aussi.
Mais c'est la liberté. On sait, moi, ma génération et celle d'avant, qui sont celles de mes sœurs qui ont 66 ans, le combat qu'elles ont mené. C'était pour la liberté. La liberté de choisir son mari, la liberté d'être instruite, la liberté d'aller à l'école, la liberté de ceci. C'était pas la liberté d'aller danser, d'aller en discothèque ou de machin. C'était la liberté de vivre. De vivre. On s'est battu avec nos parents. Il y a eu des ruptures familiales comme ça, qui ont été très douloureuses à vivre.
pour dire moi je veux choisir ce que
voilà.
je veux.
Voilà. Mais ces femmes-là n'ont pas choisi l'hypocrisie pour partir de chez elles. Mmh. Elles sont parties.
En disant pourquoi.
Ouais. Mais aujourd'hui, elles sont ancrées. Mmh. Elles sont en phase avec elles-mêmes. Et je le suis moi-même. Mmh. Je le suis moi-même. Mmh. Et quand on vient me critiquer, bah, gars, fille, fais le même travail que moi. Hein. Peu importe tes origines, je m'en fous. Mais viens pas me rappeler que je suis arabe. Parce que moi, je suis pas arabe. Mmh. Moi, je suis française, d'origine algérienne, d'Afrique. Mmh. Certainement pas d'Arabie Saoudite ou du Yémen ou de je sais pas d'où. Donc ça, je fais la différence. Mmh.
Et ça pourrait être ça, en fait, une héroïne, quelqu'un qui est capable de s'ancrer et de
c'est pour ça que j'ai
ce qui est bon pour lui. Et de...
C'est pour ça que j'ai choisi le mot conscientiser. Je ne choisis pas la place de l'autre. L'autre a décidé de venir me parler d'un problème, d'essayer de l'accompagner, de comprendre tout ça. Mais il faut qu'il accepte certaines vérités, peu importe. Mais quand c'est un jeune maghrébin ou un jeune africain, me crois-moi que quand il est devant moi, bah le pauvre, bah le pauvre, ah le pauvre, ah, je le rappelle à ses origines, à son histoire et à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il peut me dire, oui, mais je suis noir, oui, mais je suis arabe. Mais déjà, oublie. Tu t'appelles comment, t'es né, où et tes parents. Et quand tu m'auras raconté certaines choses, sans tes problèmes matériels, sans tes problèmes ceci, de travail, de... on va travailler sur toi d'abord. Mmh. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Aujourd'hui, il n'y a que des gens qui ont un peu d'argent, enfin qui ont de l'argent, qui peuvent se payer un coach, qui peuvent se payer un psy, qui peuvent aller faire du développement personnel. Et si tu veux que ça change, eh ben, il n'y a que toi qui peux le faire. Nous, on est là pour te soutenir et t'accompagner. Mais jamais on décidera à ta place. C'est impossible. Si nous, on essaye de te dire, bah tiens, essaye par là, machin et tout, et que toi, tu t'es tellement persuadé que tu dois aller là, et ben voilà, et on t'accompagnera pour aller là.
Et dans le boulot que tu fais actuellement, c'est possible de faire ça. Tu as la liberté de faire ça.
J'ai cette liberté de faire ça, pas à la petite enfance, mais je continue à le faire. Parce que c'est mon engagement, parce que après mon retour, on va dire, au travail, les gens qui ont toujours eu confiance en moi continuent à faire appel à moi. Je fais des rendez-vous chez moi. Là, c'est bénévole tout ça, mais c'est du conseil. On m'a demandé de me monter en auto-entrepreneur pour faire du conseil. Ok, c'est un statut que j'ai monté, mais que j'ai pas encore développé parce que j'en trouve pas aujourd'hui forcément la nécessité. Et puis voilà. Et mais à côté de ça, je travaille avec d'autres responsables associatifs sur un gros projet à Bellevue qui est collectif, qui va être plutôt un pôle d'excellence, un tiers lieu. Et voilà, là on commence à travailler là-dessus depuis 2 mois maintenant. Mais parce qu'il y a cette nécessité, mais voilà, il y a toujours plein d'idées dans la tête et tout. Je ne suis plus forcément trop visible publiquement. Je suis sur l'espace public, mais je ne me montre plus publiquement. Les gens savent ce que je fais, ils le savent. Et je vais même informer les réseaux sociaux parce que je me montre en photo, des trucs comme ça. Mais... machin. Après, si je dois me battre pour quelqu'un, et c'est ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines, ouais, ben là, les gens, ils le savent. Ils savent qu'Aïcha, elle est partie dans un combat, et elle dit en plus, hein, je lâche pas l'affaire.
C'est une combattante, en fait. Ouais. Dans la famille des héroïnes, t'as quand même l'épée,
ouais,
quoi. Hein.
Mais il y a, je sais pas si elles le diront, franchement, je sais pas si elles le diront. Mais la plupart des femmes que moi j'ai rencontrées dans les quartiers populaires admirent chez moi cette force de caractère et cette capacité de dire les choses. Voilà.
Bon, merci.
Ben, merci à toi.
C'était Les héroïnes du quotidien. Prise de son, interview, Angèle Goduchou. Montage, mixage, habillage sonore, Michele Battan. Création musicale du générique, Balthazar Baudin. Une production de la compagnie La Lune Rousse.